L'actualité de la semaine, bien sûr, c'est la disparition de Jacques Chirac. L'hommage national a même déjà débuté. Grand rassemblement populaire ce dimanche aux Invalides, non loin d'ailleurs de la maison de la radio ici à Paris. Et demain, journée de deuil national avec la cérémonie officielle et les honneurs militaires le matin aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron et de dizaines de chefs ou anciens chefs d'État et de gouvernement, suivi par un office à l'église Saint-Sulpice. Et entre-temps, le parcours du cortège funéraire encadré par des dizaines de gardes républicains. La République qui sait justement rendre hommage en grande pompe à ses meilleurs enfants. C'est Daniel Barenboim lui-même qui jouera au piano l'un des impromptus de Schubert, l'opus 142 numéro 2 que nous écoutons. En ce qui nous concerne ce soir, nous allons nous interroger essentiellement sur l'homme de culture, Jean-Jacques, avec vous, Jean-Jacques Ayagon, l'homme de culture Jacques Chirac. Mais un mot d'abord sur peut-être l'ampleur de cet hommage national, l'unanimité, le consensus, qui évidemment masque un peu la part d'ombre, les dates plus sombres qui existent inévitablement, les échecs aussi de l'ancien chef de l'État.
Oui, en effet, on a l'impression que l'intensité et la densité de cette émotion... réconcilie Jacques Chirac avec la totalité des Français, quelle qu'ait pu être à certains moments leurs oppositions ou à sa personne ou à sa politique. Il faut dire que Chirac a occupé la scène politique française pendant très très longtemps. Songez que les accords de Grenelle, 1968...
Oui, il vient avec un revolver dans la poche, dit-on.
Tout à fait. Il est déjà là, c'est lui qui négocie avec la CGT.
Dans la salle des accords de Grenelle.
2007, il est toujours... Il est
de la rue de Grenelle, au ministère du Travail.
Ouais. Au ministère du Travail, il est toujours là et il n'a jamais quitté l'horizon qui était sous les yeux des Français, l'horizon politique et l'horizon tout court. Donc une longévité politique tout à fait exceptionnelle et dans des fonctions extrêmement diverses. Cet homme aura été ministre, aura été député de la Corrèze, conseiller général de la Corrèze, président du conseil général de la Corrèze,
maire de Paris,
et à ce titre, président du conseil général de Paris et de la Seine, puisqu'à Paris, la ville et le département sont confondus, ministre, premier ministre, président de la République, il aura tout fait. Et il aura connu également, il aura été ou l'allié ou l'adversaire de toutes les personnalités les plus éminentes qui ont joué un rôle important dans notre pays. Il aura connu le général de Gaulle, il aura connu Valéry Giscard d'Estaing.
Affronter François Mitterrand en débat.
Affronter François Mitterrand, puis avant de lui succéder. On sait la difficulté de sa relation avec Nicolas Sarkozy. François Hollande, pour qui il a plus ou moins appelé à voter, qui était corrézien, en tout cas élu corrézien comme lui. Donc on voit bien que c'est un homme qu'on rencontre dans tous les recoins.
Mais ça veut dire aussi, selon cette formule latine célèbre, des mortuis nihil nisi bonum, des morts on ne peut dire que du bien. Ça veut dire qu'après le temps des hommages, peut-être le temps des historiens viendra ?
Inévitablement et heureusement. Je crois qu'après, en effet, cette émotion viendra le temps de l'histoire, de l'analyse, qui s'amorce d'ailleurs déjà dans certains journaux. Mais ce bilan de Jacques Chirac, comme tout bilan d'ailleurs, a des points saillants, des points forts, des points éblouissants parfois, et puis parfois, en effet, des éléments de bilan moins satisfaisants. Mais c'est le propre de tout homme politique que de contribuer à l'histoire de notre pays de façon mélangée.
En matière culturelle, puisque c'est ce qui va nous occuper ce soir, les points saillants, vous les définiriez, vous les énuméreriez
comment... Le premier point que j'évoquerai, c'est tout d'abord qu'on s'est mis à constater que Jacques Chirac était cultivé. Il avait lui-même tenté pendant longtemps d'accréditer l'idée qu'il était cuistre, qu'il ne s'intéressait qu'à la musique militaire et au roman policier. C'est un grand genre littéraire, d'ailleurs, le roman policier, il faut pas le maîtriser. Et puis au fil des décennies, on s'est rendu compte que Chirac avait une véritable culture, mais une culture singulière. Une culture qui s'était portée sur des choses qui, d'habitude, n'intéressent pas systématiquement les hommes politiques. La poésie, ce qu'il tenait sans doute de Georges Pompidou. La paléontologie qui le passionnait, d'où ses entretiens fréquents avec le professeur Coppens. Les civilisations de l'Asie, dont il avait fini par devenir un connaisseur extrêmement, extrêmement avisé, extrêmement affirmé. Et, de façon plus générale, toutes les civilisations éloignées de la nôtre. C'est ce qui m'a attaché à lui d'ailleurs, c'est la constatation que finalement il avait su dépasser le confort de notre précaré culturel et s'intéresser à d'autres choses que celles qui nous intéressent dans notre civilisation depuis longtemps. Il avait regardé vers les autres horizons et ensuite il en a fait d'ailleurs l'un des leviers de ses politiques culturelles.
Alors mercredi va paraître chez Fayard un ouvrage, ici c'est Chirac, un ouvrage inédit d'entretien avec Jacques Chirac, signé de l'homme avec lequel il avait rédigé les deux tomes de ses mémoires, Jean-Luc Barré. Et ce coup-ci, ce sont des sortes de mémoires d'outre-tombe, bourrées de révélations, comme celle-ci. Chirac revient sur son amour légendaire pour les films de western et de manière surprenante déclare qu'on a toujours pensé qu'il aimait les westerns parce qu'il était du côté des cow-boys. Et Chirac de révéler « J'ai toujours été du côté des Indiens ». Une formule qui éclaire peut-être, Jean-Jacques Ayégon, sa conception de la culture du monde, le musée des arts premiers par la suite et une forme de passion pour la diversité, sinon peut-être même une forme aussi d'anti-américanisme.
Oui, je crois que c'est la clé principale, la compréhension de la personnalité culturelle de Jacques Chirac.
Aimer les Indiens.
Voilà, aimer les Indiens, aimer les autres. Je l'ai entendu un jour, je dînais, j'étais ministre, il m'invite à dîner à l'Élysée avec le président Fox, le président du Mexique, et je l'entends faire une sortie très très violente sur la colonisation des Amériques par les Européens, sur le rôle néfaste de Christophe Colomb qu'il considérait quasiment comme un criminel de guerre, déplorant l'anéantissement des civilisations antérieures à la découverte, accablant les Européens d'avoir introduit leur religion, leurs idées, leurs maladies sur ce continent, et prenant le parti, en effet, des Indiens contre les Espagnols, et de façon générale, d'ailleurs, tous les Européens, puisque les Espagnols n'ont pas été seuls à coloniser les Amériques et le reste du monde. Quand il s'est agi de célébrer le 5e centenaire de la découverte de l'Amérique, il a pris une décision qui, dans un premier temps, m'a surpris. Il m'avait fait venir dans son bureau pour m'en parler. Décision de programmer au Petit Palais une exposition sur les Taïnos Arawak. Il me dit à ce moment-là, vous savez tout naturellement de l'admirable civilisation des Taïnos Arawak. Je lui réponds, bien sûr, monsieur le maire, j'en connaissais extrêmement peu. Je me suis ensuite renseigné naturellement et c'est de cette façon que nous avons monté avec Jacques Kerschach une exposition qui réellement a fait date et au cours de laquelle il s'est d'ailleurs lui-même livré à plusieurs reprises à des présentations de l'exposition à la presse, déployant toute l'étendue de sa connaissance du sujet. S'il a créé, parmi les institutions qu'il a créées, le musée du Quai Branly, le département des arts de l'islam au Louvre,
le pavillon des sessions avant
le musée du Quai Branly, avec donc
le département des arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, oui.
Qu'on a appelé à un moment les arts premiers, au même titre que les chefs-d'œuvre de la peinture italienne du XVIe siècle ou ceux de l'art grec du Ve siècle avant notre ère, c'est qu'il avait une conception extrêmement riche de l'histoire de l'humanité. Il estimait que toutes les civilisations, tous les êtres humains, tous les peuples avaient contribué à cette grande aventure de la civilisation au même titre et de façon également digne. Il était en quelque sorte un fils d'André Malraux également. Vous savez, dans le dictionnaire, dans le musée imaginaire d'André Malraux, Malraux convoque des chefs-d'œuvre de toutes les civilisations, de toutes les cultures. Il les met toutes sur le même plan et il les invite à se parler, à dialoguer. D'où la grande idée de Chirac, l'idée du dialogue des cultures, fondée sur l'affirmation de la nécessité de la diversité des cultures. Conviction qu'il animait tellement, tellement fortement qu'il a été l'un des chefs d'État à porter au sein de l'UNESCO l'idée qu'il fallait élaborer une convention sur la diversité culturelle, convention qui a été dont l'examen a commencé en 2003 et qui a été définitivement approuvée par l'UNESCO en 2005.
Si on regarde à la fois Ville de Paris et aussi Présidence de la République, donc Élysée, il y a tout un tas de musées. Alors on peut penser au musée de Lens, le musée d'Abu Dhabi qui sera organisé par votre successeur Renaud Donnedieu de Vabre, mais c'est Chirac qui est président, le musée Guimet, la maison de la poésie, la maison de la photographie, la vidéothèque de Paris devenue forum des images. Tout ça montre une préoccupation dans différentes directions et il y a une philosophie derrière tout ça, une pensée Chirac de la culture.
Oui, je crois qu'il y avait une pensée de la culture. Il pensait que la culture avait besoin de lieux pour se fabriquer, pour se diffuser également, pour se partager. Je crois qu'il croyait très très fortement à la nécessité des institutions culturelles. Et cette.
En cela, c'est pas un libéral. Il y a un rôle de l'État, il y a un rôle de la ville.
Il n'était pas libéral. Vous savez, l'un de ses grands projets culturels, ça a été d'installer plus dignement les archives nationales qui périclitaient dans leurs diverses installations. Il prend la décision, il confie à deux femmes remarquables, à Georgette Elger et à Annette Wieworka, le soin d'un rapport sur la situation des archives nationales dans notre pays. Elle lui rend ce rapport. Ce rapport décrit une situation totalement dégradée et il prend la décision de créer, dans le nord de Paris, à Pierrefitte, un nouveau site totalement performant, adapté au travail des historiens, afin que les archives nationales soient enfin dignes de leur mission. Donc il croyait beaucoup à cette nécessité pour l'État d'assumer ses institutions et parfois d'en créer de nouvelles, de façon à accroître sa capacité à mettre en œuvre une politique culturelle. Et à cela s'ajoutait qu'il croyait également très très fortement que dans ces institutions, il fallait nommer des gens aussi compétents que possible et même très compétents. Il a toujours fait confiance aux responsables des établissements culturels. À la ville de Paris, songez que nous avions à un moment, nous n'avions que des gens qui ensuite ont eu des destins professionnels extraordinaires. Véronique Hella était à la Vidéothèque de Paris, elle est aujourd'hui présidente d'Arte. Stéphane Lissner était au Châtelet où il avait succédé à Jean-Albert Cartier, il est à l'Opéra de Paris maintenant. Jean-Luc Monterosso a été l'instrument de sa politique en faveur de la photographie. Gérard Violette, qui a accompli un travail formidable pour la diffusion de la danse contemporaine dans notre pays, à Paris et dans notre pays, était au Théâtre de la Ville. C'est un poète, à Pierre-Emmanuel, qui l'a confié la conception et ensuite la réalisation d'une maison de la poésie. Donc il croyait beaucoup, il croyait aux hommes de façon générique, les hommes avec un grand H, donc aux femmes et aux hommes capables de porter des projets. Il savait également qu'il n'appartenait pas à un responsable culturel d'avoir des idées en matière de politique artistique. Il savait distinguer entre une politique culturelle, qui est une politique d'orientation des choses, et une politique artistique ensuite, qui consiste à donner du contenu à l'action des établissements ou des institutions.
Mais justement, comment est-ce que vous comprenez cet intérêt non affiché pour la culture? C'est vrai qu'il y a eu des grandes figures, notamment comme François Mitterrand et Georges Pompidou, qui l'affichaient clairement. Et c'est presque, effectivement, quand on est sorti de l'ère Chirac, qu'on s'est rendu compte qu'il avait effectivement repris à son compte aussi une grande partie des choses mises en place sous François Mitterrand, et les avait gardées. Est-ce que c'est le dernier grand président d'une politique culturelle orientée pour vous?
Alors, tout d'abord, il était extrêmement pudique, donc il n'aimait absolument pas parler de ses sentiments, de ses goûts, de ses pensées. Ce n'est que très progressivement qu'il s'est révélé. D'autre part, un président aussi essentiel pour l'histoire culturelle de notre pays comme François Mitterrand, il a pris soin, grâce au génie également de son ministre de la Culture, de Jack Lang, en même temps qu'il mettait en œuvre une politique culturelle, de la dire, quasiment de l'écrire. Et donc les choses, les idées, les faits ont très rapidement été gravés, comme gravés dans le marbre. Bon, d'abord Chirac n'a pas eu un ministre de la Culture, il aura eu cinq ministres de la Culture, dont deux ministres de cohabitation, Catherine Trottmann et Catherine Tascard, ont été ministres de Jacques Chirac. Et je tiens d'ailleurs à vous dire que la cohabitation culturelle a été tout particulièrement sereine et respectueuse réciproquement, mais il aura eu Philippe d'Oust-Blazy, les deux ministres que j'ai cités, moi-même, Renaud Donnedieu-Vabre. Donc peut-être que cette succession, c'est, vous le savez, aujourd'hui l'une des faiblesses du ministère de la Culture, que cette instabilité effroyable qui frappe les détenteurs de la fonction. Là, toute politique a besoin un peu de temps pour se mettre en œuvre. Donc Jacques Chirac a donné une impulsion formidable aux choses, il a fait de grandes choses, mais ces choses restent encore à écrire. J'ai commencé à les écrire en présentant il y a quelques années une exposition au musée du Quai Branly, exposition que j'avais intitulée Jacques Chirac ou le dialogue des cultures, mais j'espère que demain des historiens, des observateurs continueront d'écrire cette histoire parce que son bilan culturel est solide et même très convaincant.
Signalons que le musée du Quai Branly Jacques Chirac, le musée des arts premiers, restera ouvert gratuitement à tous jusqu'au vendredi 11 octobre, a annoncé le ministre de la Culture. Jean-Jacques Ayagon, on vous retrouve, allez-y, pardon.
Non, je voulais simplement ajouter une chose, ce que je trouve également très intéressant dans dans le comportement culturel, dans l'engagement culturel de Jacques Chirac, c'est qu'il a eu l'intelligence, notamment dans les périodes de cohabitation, et lorsqu'il était maire de Paris, de ne pas s'opposer au grand projet culturel de François Mitterrand. Si le Grand Louvre et la pyramide ont pu se faire, c'est parce que Chirac a soutenu ces projets.
Les colonnes Buren sont toujours en place.
Si les colonnes Buren sont toujours en place, alors qu'une bonne partie de la droite aboyait contre ces projets. Hein, il a su résister à la démagogie qui aurait consisté à dire on arrête le Grand Louvre, comme Édouard Balladur le souhaitait, on arrête la Grande Bibliothèque, on démonte les colonnes de Buren. Il avait compris que ce qu'avait fait Mitterrand, ça appartenait désormais à la France entière et qu'il en était un tout petit peu comptable et même beaucoup comptable. Donc ces projets, il les a assumés.
Toujours dans l'actualité ce soir, deux rapides points avec vous, Emmanuel Paquette. On va parler dans un instant de la bataille sur les droits voisins avec Google. Mais juste avant, du journal Le Monde, où cette semaine, une sorte de psychodrame, je reprends les mots de Mathieu Pigas dans le JDD ce matin, une sorte de psychodrame s'est terminé autour d'une négociation qui portait sur un droit d'agrément réclamé par les rédactions du Monde.
Oui, alors il faut faire, pour comprendre ce qui se passe et ce psychodrame, il faut faire un petit retour en arrière. Grosso modo, il y a un an, un nouvel actionnaire s'est invité au capital du Monde, donc Daniel Kretensky. Donc c'est un milliardaire tchèque qui a fait fortune dans l'énergie et dans la distribution, la grande distribution notamment en Allemagne avec Metro, et qui aujourd'hui s'intéresse particulièrement à la France et entre dans l'univers des médias en France. Et donc, ce Daniel Kretensky a pris 49% du capital de la société détenue par Mathieu Pigas, donc le banquier de Lazare, qui lui-même est actionnaire du Monde, à côté de Xavier Niel, donc le cofondateur de Free, et du groupe Prisa, le groupe espagnol Prisa, qui aujourd'hui édite El País.
Ainsi que l'héritier de Pierre Berger.
Voilà, exactement, de Madison Cox. Donc l'actionnariat était stable jusqu'à l'arrivée, effectivement, de ce nouvel actionnaire. Et les journalistes ont découvert que non seulement il rentrait à hauteur de 49%, mais il avait une option pour monter à 51%, donc prendre la totalité des parts de 26% du capital du Monde. Et c'est là-dessus que les journalistes, le pôle d'indépendance s'est constitué pour dire, eh ben nous, on veut, nous journalistes, on veut savoir déjà quand ces 51% peuvent changer de main et si on peut s'y opposer et dans quel cadre. Et donc pendant un an, les journalistes ont tenté de faire signer différents documents aux actionnaires sans réussite, jusqu'à les avoir mis au pied du mur à la rentrée, en ce mois de septembre, en leur donnant plusieurs semaines pour trouver un nouvel accord, un contrat, qui finalement s'est signé...
Ce droit d'agrément, justement.
Exactement. Alors le droit d'agrément...
C'est une sorte de veto en fonction des actionnaires qui seraient proposés, c'est ça.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si un actionnaire de contrôle vient à rentrer au capital du Monde, le pôle d'indépendance peut y opposer son refus, et du coup s'ouvre une période de 6 mois pendant laquelle le pôle d'indépendance peut aller chercher un nouvel actionnaire pour remplacer celui dont ils ne veulent pas. Si à la fin de la période de ces 6 mois, il n'arrive à trouver personne, à ce moment-là, le précédent actionnaire revient dans la boucle et peut rentrer au capital.
Alors, sur le plan économique, ça a un sens, un tel agrément ?
Alors, selon Mathieu Pigas, pas du tout, parce que la question, c'est aussi la question de la valorisation de ces parts qui seront cédées. On ne connaît pas aujourd'hui la valorisation du groupe Le Monde, puisque c'est un groupe qui n'est pas coté. Et on sait simplement qu'aujourd'hui, Mathieu Pigas a réussi à obtenir que, quoi qu'il arrive, la cession de ses parts ne seront pas à une valeur inférieure à 57 millions d'euros, quand lui-même les valorise plutôt à 110 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a un gros écart. Donc en cas de changement d'actionnaire, un expert serait nommé pour estimer la valeur du Monde et des parts qui seraient cédées. Et donc c'est là, effectivement, où tout se jouera.
Alors là, ce matin, justement, dans le JDD, dans une chronique de Anna Cabana, comment dire, un Mathieu Pigas détendu et un peu sioux dans cet entretien portrait dit tout ça à propos de ce droit d'agrément et ce psychodrame de cette semaine. Tout ça, c'est une comédie avec des gens médiocres dans une époque médiocre. Je suis joueur, je pense que la vie est absurde. Je fais du jutsitsu, hein, donc
concrètement,
voilà, c'est l'art du vide, c'est créer du vide pour retourner la force de l'adversaire contre lui-même.
Oui, effectivement, parce que je pense que Mathieu Pigas a été extrêmement exposé, son image extrêmement écornée, et surtout, parce que c'est quand même le banquier de Lazare, donc c'est quelqu'un qui vit à côté de fusion-acquisition ou qui négociait le rééchelonnement de dettes de grands pays.
Sans droit d'agrément, souvent.
Exactement, donc cette image-là, elle est importante, et qu'elle soit écornée comme ça au niveau français, ça peut lui nuire dans ses affaires. Il y a déjà des rumeurs qui courent sur l'avenir de Mathieu Pigas au sein de la banque Lazare, qui est une grande banque d'affaires, de fusion-acquisition notamment. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Mathieu Pigas a tout intérêt à calmer le jeu, mais pour combien de temps ?
Alors ça a été aussi un peu, tout ça a été un peu excité par, vous l'avez dit, Daniel Kretinsky, mais aussi qui paye sa collaboration avec Denis Oliven, bête noire des journalistes du Monde depuis sa tentative de rachat du journal Le Monde contre BNP, un berger, Niel Pigas, c'était en 2010. Et puis de l'autre côté, négociation menée par Emmanuel Hogue, ancien PDG de l'AFP, qui a pris la direction des actifs médias et rock'n'roll de Mathieu Pigas. Donc on voit, c'est aussi des batailles de Denis Oliven, Emmanuel Hogue, Mathieu Pigas versus la direction du Monde.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs de le voir très... De le voir dire dans cette chronique avec Anna Canava qu'il est hors système.
C'est une et qu'il question. Est punk.
Qu'il est punk. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est très. Ce qui est compliqué pour Mathieu Pigas aussi, c'est que Mathieu Pigas, qui a mis énormément d'argent dans les médias, y compris dans Nova, est en train, peu à peu, parce qu'il se rend compte qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent quand on investit dans les médias.
Avec Radio Nova et Rock en Seine.
Et voilà, ouais. Que tout ça, qui est Rock en Seine, qui réussit à perdre de l'argent, ce qui est quand même assez, assez fort, mine de rien, il va avoir tendance, cet homme, à retirer les billes qu'il a mis dans les médias. Et évidemment qu'avec un accord d'agrément, bah, c'est beaucoup plus difficile de vendre. C'est évidemment tout le problème, c'est quel est l'intérêt quel est l'intérêt pour quelqu'un aujourd'hui d'investir à perdre dans des médias qu'il ne peut pas contrôler. On est au-delà de ça, bon, sur une question autour de laquelle on tourne, avec évidemment toujours les mêmes questions depuis plusieurs années en France.
Jean-Jacques Ayego, une réaction peut-être. Non,
écoutez, votre observation est extrêmement intéressante. Je me suis souvent demandé pourquoi des hommes riches et faisant des affaires s'intéresser aux médias, puisque ça ne rapporte pas grand-chose et qu'on n'est même pas garanti que ce média ou que ces médias diront du bien de vous. Mmh. Vous voyez, on risque de perdre son.
Vous n'aviez pas envie de racheter Radio Nova
non,
vous-même
non, mais
les
Un
Rock et...
Cela dit, quand même, on est confronté à une terrible contradiction, c'est que les journaux, d'une part, sont des productions culturelles pour lesquelles on doit souhaiter l'indépendance des rédactions. C'est ce qui fait la qualité de la presse, c'est ce qui fait sa crédibilité. En même temps, un journal ou un groupe, c'est également une affaire qui a besoin d'argent pour investir et qui donc doit se tourner vers des gens qui sont susceptibles d'y investir et éventuellement espérer d'avoir quelque influence dans les affaires. Donc cette contradiction, elle est terrible.
Et la génération des Pierre Berger, qui ont fait partie de ces quelques personnes qui ont, disons, mis... pour la beauté du geste de l'argent dans des groupes qui perdaient de l'argent. La même chose chez la famille qui détient le Nouvel Obs, et j'ai oublié son nom, qui depuis a changé un peu de stratégie depuis la mort du patriarche. Voilà, ces figures-là, on les a plus aujourd'hui en France, et on n'a pas une économie des médias qui permette aujourd'hui d'éviter cette espèce de hiatus.
Mais Jean-Jacques Ayagon, la contradiction, elle est permanente dans la vie. Donc,
mais je crois à la nécessité des contradictions au sein du peuple.
Vous voilà, savez, finalement,
je suis un vrai maoïste, moi.
Justement, vous n'avez pas posé la question à votre employeur, M. Pinault, parce que lui même détient le point.
Donc il détient le point, poser la question. Mais de façon extrêmement paisible. C'est-à-dire qu'il s'est fixé...
Emmanuel Paquette Sioux qui est rentré.
il s'est fixé quelques règles du jeu, donc il n'intervient pas dans la conception éditoriale du journal. Il lui arrive naturellement d'en discuter avec le directeur de la publication. Et d'autre part, ayant des affaires par ailleurs, des affaires qui sont...
Et même un hôtel particulier.
Et donc
rue de Tournon.
Il est naturellement attentif à ce que le journal ne perde pas trop d'argent, mais il sait également que ce n'est pas à travers la presse qu'on en gagne beaucoup.
Puisqu'on parle de François Pinault, un mot sur le président de la République, Jacques Chirac, vivait dans l'hôtel particulier de François Pinault, 4 rue de Tournon, dans le 6e, comme tout le monde le rappelle. Ça vous paraît normal?
Oui, c'est un acte d'amitié. Jacques Chirac était très lié à François. Jacques Chirac était très lié à François Pinault et François Pinault à Jacques Chirac. François Pinault constatant que son ami qui habitait, vous le savez, sur le quai Malaquais,
dans un appartement des Hariris, dont il ne pouvait plus monter à cause de.
Il est en chaise roulante. Fauteuil roulant. Donc l'ascenseur, voilà. L'ascenseur ne recevait pas cette chaise roulante, donc il lui a proposé un appartement de plein pied dans un immeuble qui lui appartient, rue de Tournon. Et puis en plus, cet appartement avait un petit jardin, ce qui permettait à la famille de Jacques Chirac de lui faire prendre l'air de temps à autre. Mais c'est un acte d'amitié dont François Pinault n'attendait rien en retour.
De toute façon, il avait été président de la République il y a longtemps. Il n'y avait plus de projet à venir. Emmanuel Paquette, dernier sujet d'actualité ce soir. Bataille un peu technique sur les droits voisins entre Google et Ristérix, comme on l'appelle, c'est-à-dire le ministre de la Culture, Franck Riester.
Oui, parce qu'en fait, tout part d'une directive européenne qui a été votée il y a quelques mois de cela et qui aujourd'hui est transposée dans différents pays, dont la France. Et cette directive des droits voisins doit permettre une rémunération pour les éditeurs de presse qui permettent à Google de référencer les liens et les photos, ce qu'on appelle des snippets, donc c'est des formes contractées des premières lignes d'un article de presse avec une photo. Et jusqu'à maintenant, Google le proposait sur Google, le moteur de recherche, et sur Google Actualité, donc la verticale destinée à l'information, gratuitement. Et l'idée, c'était de faire payer Google pour
rémunérer. Ces extraits, finalement.
Voilà, cette indexation de toute cette information. Là, Google a réagi, puisque normalement, l'application de cette loi devrait intervenir à la fin du mois d'octobre. Et Google a dit, nous, on ne payera pas. Donc, soit on retire complètement les articles, et à ce moment-là, il y aura une incidence sur votre trafic. Soit on garde vos articles, mais à ce moment-là, on signe un nouvel accord de gré à gré avec chaque éditeur, en stipulant bien qu'il n'y aura aucune rémunération pour la mise en avant de vos articles. Donc tout ça pour ça, on a envie de dire, ça a fait un peu pchit, comme dirait l'ancien président de la République. Et donc du coup, le ministre de la Culture, Franck Riester, est monté au créneau en disant que c'était inacceptable. Et il demande à Google de se mettre autour d'une table pour négocier à nouveau. Alors il faut savoir que Google a déjà utilisé à peu près les mêmes procédés en Espagne et en Allemagne. Et à chaque fois, les éditeurs ont perdu dans ce bras de fer. Parce que le rapport de force aujourd'hui, il n'est plus du tout entre les mains des éditeurs. Même pas au niveau des gouvernements, il est plutôt du côté de Google. Donc si Google ne veut pas céder... Et en fait, Google ne cédera pas.
Bien, comme ça, les choses sont claires. À suivre, Pauline Barreau de Lagerie qui décrit dans un livre coécrit avec Dominique Méda les nouveaux travailleurs du web. Et juste après, on retrouve Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture. Ce coup-ci, nous parlerons d'Emmanuel Macron, de sa politique culturelle et de Franck Riester. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur les liens à la fois artistiques et très rentables entre Broadway et l'industrie de la musique. Ces dernières années, le théâtre de texte, qu'on appelle le straight theater aux États-Unis, a connu de grandes difficultés à Broadway, c'est-à-dire dans les théâtres qui ont plus de 500 places. De moins en moins de pièces sont montées dans ces théâtres commerciaux de New York et elles sont renvoyées le plus souvent dans le off-Broadway, c'est-à-dire des théâtres qui ont entre 499 et 100 places, et surtout dans le off-Broadway, les théâtres avec moins de 100 places. Alors plutôt que du théâtre de texte, et ce n'est pas nouveau, on programme donc davantage des musicals, les comédies musicales, souvent produites pour durer sur de longues années, ultra commerciales ou Disney-ifiées, telles Le Roi Lion ou Mary Poppins. Ce qui est nouveau en revanche, ce sont les shows musicaux autour d'un grand nom de la musique pop. Le West End à Londres fait cela depuis Mamma Mia, autour de la musique du groupe pop et un peu funky. Emmanuel Paquette, ça vous rappelle des souvenirs à bas. Mais plus récemment, Bruce Springsteen a fait l'objet d'un Broadway show, Prince, ou encore Michael Jackson, dont l'arrivée sur Broadway est prévue pour 2020. En attendant, c'est Tina Turner qui devient le sujet d'une comédie musicale à New York à partir de la mi-octobre. La chanteuse de 79 ans qui vit désormais à Zurich et a pris la nationalité suisse coproduit le show qui a débuté à Londres. Alors comment expliquer une telle évolution? D'abord, et c'est évident, un musical à Broadway, c'est de la musique. Construire un show autour d'une star de la pop, c'est avoir dès le départ une partition originale et riche, indispensable pour une comédie précisément musicale. Ensuite, c'est faire de l'inconnu avec du connu. En prenant Michael Jackson ou Tina Turner, c'est s'assurer d'un public déjà séduit et qui peut prendre le risque d'aller voir un spectacle cher, très cher même, ce qui serait plus difficile à faire avec une production entièrement nouvelle. À l'origine, Broadway faisait de la création originale et Hollywood reprenait les succès pour en faire des films. Maintenant, c'est l'inverse. Broadway crée des shows à partir de films à succès comme Le Roi Lion ou de stars de l'industrie musicale adaptées à la scène comme Tina Turner. Alors ne soyons pas injustes, pour terminer, le show de Tina Turner qui arrive à Broadway mettra en scène une star qui fut longtemps pour les hommes un symbole de sex appeal et pour des millions de femmes un symbole des abus et des violences sur les femmes, un modèle de l'empowerment comme on dit, la possibilité pour les femmes de reprendre le pouvoir sur leur propre vie. Aussi un symbole de résilience, ce vieil anglicisme très à la mode aujourd'hui. De sa retraite suisse où elle semble vivre le grand amour avec son mari Erwin Bach, un Allemand qui lui a donné un rein lorsqu'elle était en dialyse et au bord de la mort, Tina Turner suit la production de son spectacle qu'elle a tenu par fierté et force à coproduire.